Bonsoir. D'abord, je tiens à remercier voilà, les membres de l'USEC de m'avoir sollicité il y a quelques mois déjà pour intervenir ce soir sur ce sujet du soin et du service de l'homme. La préparation de cette intervention m'a donné l'occasion de m'arrêter, de réfléchir à mon métier de façon générale et bien sûr un petit peu plus serrée pour aborder la question qui nous intéresse ce soir. Et alors, je dois dire qu'au début, j'étais très apeurée par la nouveauté de l'exercice, puisque je n'ai jamais donné ni conférence, ni exposé sur ce sujet ou sur un autre. Mais finalement, cette peur a laissé place à une certaine joie d'avoir pu prendre ce temps de réflexion. Et je tiens à en remercier donc les personnes qui m'ont sollicité. Vous avez le plan derrière moi, il est très succinct, hein, donc je me présenterai brièvement et puis nous aborderons le sujet via la relation de soins. Qu'est-ce que c'est que cette relation? Ben, c'est une relation, on verra, dissymétrique, mais qui connaît des évolutions récentes du fait de certains événements extérieurs. Et puis, nous reviendrons sur le rôle clé du médecin, dit médecin traitant, avant de faire une brève conclusion. Donc, dans un premier temps, il me paraît important de me présenter brièvement. Donc, je suis installée en tant que médecin généraliste sur le quartier de Sainte-Agne, à Toulouse, depuis une quinzaine d'années. Je n'ai pas toujours été médecin installé en ville, puisque c'est classique, on commence d'abord par des remplacements, avant de s'installer. Et même moi, je suis passée par un détour par un poste salarié dans un centre de rééducation professionnelle pendant quelques années, le temps que les enfants grandissent. Et quand le dernier a su lire, je suis revenue à la médecine de ville et je me suis installée sur le quartier non loin de la maison. D'abord seule, voilà. Et puis maintenant, nous sommes cinq. Je suis associée avec deux médecins espagnols et deux autres médecins femmes. Je partage mon temps entre des consultations en cabinet et des visites à domicile. Vraiment par demi-journée, j'alterne. Et sur le temps de demi-journée au cabinet, il y a aussi deux créneaux de téléconsultation depuis 2019. Des étudiants en médecine en quatrième et en cinquième année, j'allais dire, ont la chance de venir faire leur stage de médecine générale au cabinet. C'est un stage qui est obligatoire dans la formation médicale et qui dure un mois plein pour eux sur toute, et donc chaque mois, j'accueille un étudiant ou une étudiante, puisque la féminisation ne cesse de croître, au cabinet. Voilà pour cette brève présentation, pour le contexte. Et nous allons maintenant aborder le sujet et donc s'interroger sur ce qu'est le soin. Alors, le soin en français, ben c'est avant tout un souci, la préoccupation d'un autre. Ça peut être aussi le soin qu'on apporte à n'importe quelle tâche humaine, que ce soit professionnelle ou de loisir. Ça n'est pas, bien sûr, en ce sens qu'on entend le soin médical. Plus étonnant, je n'entends pas non plus le soin médical comme, par exemple, le soin qu'une mère apporte à un nouveau-né. Un nouveau-né, pourtant sans soin, mourrait. Mais le nouveau-né, en général et heureusement est en bonne santé. Le soin médical, c'est bien cet ensemble de gestes, de paroles, cette relation qui lie un médecin à une personne malade. Il suffit de vous souvenir de vos expériences chez le médecin pour voir que cette situation est parfois embarrassante. Cette relation est entre deux personnes, l'une en blouse, un stéthoscope autour du cou, est équipée parfois d'un otoscope, debout, et le patient, le malade, est allongé dans le lit, en pyjama, parfois perfusé, parfois empêché de bouger par un plâtre ou quelque autre handicap. Tout ceci pour vous illustrer de façon assez évidente la dissymétrie qu'il existe entre le patient et son médecin. Alors, cette dissymétrie, me semble-t-il, évolue, et elle évolue, donc je suis installée depuis 15 ans, depuis quand même les dernières années, avec par exemple l'irruption des nouvelles technologies, et en particulier d'Internet, qui vient, j'allais dire, s'immiscer dans cette relation. Internet intervient déjà avant même que les patients n'aient pris rendez-vous avec leur médecin, ils ont déjà regardé les avis sur Internet. Voilà. Et ensuite, ils ont, parfois, quand ce sont déjà des patients qui viennent au cabinet et qui ont une pathologie nouvelle, comme ils disent, je n'ai pas pu m'empêcher de regarder sur Internet. Et souvent, ils assortissent cette parole de dire « et j'ai peur, j'aurais pas dû ». C'est systématique. Voilà, ils n'arrivent jamais en disant « heureusement, j'ai regardé sur Internet et cela m'a rassuré ». Ou voilà. Donc, la dissymétrie de cette relation se trouve parfois accentuée parce que le médecin est mis sur un piédestal, parce que le patient a vu des avis favorables, ou bien, j'allais dire, diminué ou rééquilibré par le partage des connaissances que seul détenait le médecin. Alors, cet accès à l'information médicale via Internet, qui existait déjà avec des émissions télévisées ou des revues grand public. Je pense qu'il ne faut pas confondre cette information et le savoir médical. Mais le patient confond, hein, et prend cette information pour un savoir. Et ça l'autorise parfois une remise en question de ce savoir. Et il affiche parfois une certaine souveraineté. Il sait maintenant souvent ce qui est bon pour lui. Et ainsi, le pacte de confiance initial entre le médecin et son patient se déplace entre soignant, soigné, maintenant vers autre chose. La confiance se fait entre un patient informé qui fait confiance à son médecin, non pas parce qu'il sait, mais le patient fait confiance à son médecin car il sait que ce médecin, que je respecterai, ce que le patient pense être bon pour lui. Je fais confiance en mon médecin car je sais qu'il respectera ce que je pense être bon pour moi, pour résumer la situation. je vais vous donner deux petits exemples pour illustrer cela. Une de mes patientes n'a pas voulu être vaccinée lors de la dernière crise sanitaire. Et puis, un jour, j'ai vu en téléconsultation son mari prendre rendez-vous pour le renouvellement du traitement de sa pathologie chronique. Et donc, sa femme était à ses côtés. Donc, voilà, j'ai dit, mais à ce monsieur, je lui ai dit, mais vous n'avez pas réussi à joindre votre médecin pour renouveler votre traitement de fond, votre médecin traitant, sous-entendu. Il m'a dit non, mais je n'ai plus confiance. Elle a appelé deux fois à la maison pour que je me fasse vacciner. Voilà, par exemple, un exemple de cette évolution de la relation. De même, toujours pour prendre un exemple issu de la crise récente, un frère et une sœur d'un certain âge sont venus au cabinet, eux, ils avaient pris rendez-vous pour s'assurer que si ils me prenaient comme médecin traitant, je leur prescrirais de l'ivermectine si ils avaient le Covid. Que penser de cette situation? Alors, il est louable que les patients s'informent. Et j'ai dit que les sources d'information ne manquent pas. Il n'y a pas que Internet. Mais il est dommage que ça aboutisse à des situations comme celle-ci, où finalement la relation médecin-patient se trouve rompue de façon unilatérale par le patient qui a décidé qu'il n'irait plus voir son médecin puisqu'il pense qu'il ne respectera pas ce que lui-même pense être bon pour lui. Et voilà, alors articuler une certaine bienveillance vis-à-vis du patient, certes, mais il ne faut pas non plus que ce soit une inflation exagérée de ses désirs, de ses croyances et de ce qu'il pense être bon pour lui. Hein. Donc, voilà, l'autorité du médecin se trouve interrogée par le patient informé, mais cette information, il faut dire que les médecins l'ont favorisée, l'ont souhaitée. Par exemple, vous savez qu'il existe bien sûr des associations de patients qui concernent toutes les maladies chroniques, hein, et qui sont soutenues et dans lesquelles les médecins interviennent, bien sûr, pour partager leurs connaissances sur les maladies concernées. Vous savez par exemple que si vous êtes diabétique, il vous sera proposé plusieurs fois dans votre vie de diabétique de suivre des semaines d'éducation thérapeutique. Voilà. Hein. On a favorisé effectivement cette partage des connaissances. On a favorisé l'émergence des associations qui prennent part maintenant au suivi, à l'accompagnement des patients. C'est une bonne chose. Ça s'est développé dans les années 80, après que l'épidémie de sida en Amérique, lorsque les patients face à l'épidémie se sont regroupés, ont constitué des associations et qui ont financé la recherche, qui ont nettement, bien sûr, favorisé l'émergence maintenant de traitements efficaces. Hein? Voilà. Donc, on favorise l'information, on responsabilise donc le patient dans la prise en charge de sa pathologie, mais est-ce qu'on n'en fait pas trop dans ce sens? Parce que impliquer le patient, certes, mais n'est-ce pas lui laisser entendre que la santé, c'est à la force de ses poignets qu'il va la maintenir, que la santé est au bout de ses efforts pour faire du sport, pour manger léger, pour observer donc tel régime, pour suivre scrupuleusement tel traitement. Il y a une injonction déjà à être en bonne santé et en plus à vous prendre en charge. Et alors, qu'est-ce qui se passe après? On voit arriver, nous, les patients, un peu penauds avec leurs analyses parce que le cholestérol n'est pas ce qu'il devrait être. Et puis, voir alors s'ils sont penauds, mais s'ils se culpabilisent parce qu'ils ont pris du poids, ce qui est néfaste pour l'arthrose de leurs genoux. Ou bien ils sont dans l'incompréhension parce que malgré leurs efforts, par exemple, ils n'ont pas arrêté la cigarette qu'ils prennent au café avec les collègues. Hein? Donc cette responsabilisation ne doit pas conduire à une culpabilisation. Et j'estime que mon rôle alors est plutôt de redire que certes, la santé avec un grand S est précieuse, mais n'est pas un bien en soi, quand même. Elle est au service de la vie, hein, et que les restrictions, les régimes, c'est bien, mais qu'il faut aussi savoir réintroduire parfois un petit peu d'insouciance ou de légèreté au quotidien. Et il me semble que c'est une très favorable, j'allais dire, de rassurer le patient, parce que s'il croit que la santé est entre ses mains, il a en partie raison, mais tôt ou tard, brutalement ou insidieusement, il va faire l'expérience que la santé va quand même lui échapper. Hein? Voilà. Et donc, s'il y a quelque chose à garder, tel un trésor, c'est plutôt la vie que la santé, qui de toute façon nous échappera, la vie aussi, mais différemment. Voilà. Alors, peut-être que vous êtes un peu surpris par ce propos, mais c'est celui d'un vieux médecin. Alors, la vision de l'adolescent qui s'engage dans les études de médecine n'est pas la même. On a la prétention de guérir. Hein. Heureusement qu'on a la force de la jeunesse et l'ambition pour... Et petit à petit, on se rend compte qu'on va surtout soigner et assez peu guérir, même si on doit dire quand même que l'évolution, le progrès des thérapeutiques médicales est quand même impressionnant. Hein. Je regarde mon confrère, quand on voit qu'il y a encore 5 ans, on ne guérissait pas de l'hépatite C, hein, on guérit un cancer sur 2, alors on guérit, certes, mais des maladies qui étaient mortelles deviennent chronique, hein, c'est le cas de nombreux cancers. Voilà cette petite parenthèse sur la vie et l'opinion d'un vieux médecin. On a parlé donc de l'évolution de la relation médecin-patient avec l'intervention entre guillemets d'Internet dans nos vies. Ça, c'est une chose, mais les autorités médicales ont aussi organisé finalement d'autres choses qui changent la relation médecin-patient, en particulier par ces temps de pénurie et de disette médicale. Beaucoup de tâches médicales ont été transférées vers par exemple les pharmaciens, hein, qui peuvent vacciner contre la grippe depuis 2018, vers des infirmières qui peuvent faire des prescriptions maintenant pour les pansements nécessaires à l'exercice de leur art. Ça, ce sont, j'allais dire, des transferts un peu organisés. Les autorités, voilà, voulant favoriser la vaccination large de la grippe, ont impliqué les pharmaciens, voulant simplifier la vie des infirmières qui devaient toujours nous courir après pour avoir une prescription de pansement qui ne leur convenait pas parce qu'elles voulaient l'autre marque, voilà, etc. Ça, ce sont des transferts, j'allais dire, un peu organisés par les autorités. Et puis, il y a les patients eux-mêmes qui s'orientent vers, par exemple, vers l'ostéopathe. On voit maintenant bien peu de lumbago débarquer au cabinet. Les patients ont leur ostéopathe et ils sont passés chez lui avant de venir parce que l'ostéopathe ne les a pas soulagés. Voilà. Mais on ne voit pas ceux qui ont été soulagés. Hein? Voilà. Je ne dis pas que les soins d'ostéopathie ne sont pas efficaces. Je dis que l'on voit ceux voilà, qui n'ont pas été soulagés. Et de même, ils vont vers les naturopathes, vers les phytothérapeutes. Voilà. Ça, ce sont des orientations qui doivent quand même interroger la place du médecin, hein, maintenant, et d'où notre deuxième partie sur la place de ce médecin traitant. Voilà. Ça, c'est une loi qui date de 2008, hein, qui conseille fortement, par des incitations financières, les patients à avoir leur médecin traitant. Et finalement, je pense que cette loi qui était antérieure à certaines, à la crise bien sûr sanitaire, à la pénurie médicale, est une bonne chose puisque cette loi a créé finalement un médecin référent apte à synthétiser, à orienter et à conseiller une personne un petit peu pivot dans ce paysage médical où, par exemple, à l'hôpital, on le sait bien, on découpe l'homme par organe. Hein. Donc, le médecin traitant est là, effectivement, pour, entre autres, voilà, dans un rôle de coordination, hein, pour... voilà, pour orienter souvent le patient. On va voir comment. Donc, 27 millions de Français, paraît-il, n'ont pas encore de médecin traitant. Mais ça ne saurait tarder avec tous les étudiants qui se forment. Voilà, la formation médicale initiale, bien sûr, garde sa réputation de difficulté. Nous, on est soumis quand même aussi à une obligation de formation continue, régulière, en soirée mensuelle, en petit groupe de formation de pairs. Et puis, on se forme aussi au moins un, deux, trois jours par an sur des sujets bien particuliers. Tout ça, c'est nécessaire si on veut garder effectivement le rôle que je vais décrire un petit peu maintenant. Parce que notre rôle de médecin généraliste, il y a de nombreuses situations dans lesquelles il intervient. Et l'alliance avec ce médecin qu'on choisit comme médecin traitant doit s'avérer dans de nombreuses situations solide et résistante. Alors, quand on intervient comme médecin de premier recours, on peut le faire sans être le médecin traitant d'une personne. Hein. J'entends par premiers secours, parfois des personnes qui n'ont pas de pathologie particulière, qui viennent peu chez le médecin, qui n'ont pas toujours de médecin traitant, et qui viennent demander un avis, par exemple, sur une lésion dermatologique, puisque vous savez que vous ne pouvez plus aller vers certaines spécialités sans passer par le médecin généraliste. Donc, en premier recours, nous sommes là quand même pour dire le normal, le pathologique, l'urgence ou pas de la situation. Vous savez qu'il faut de nombreux mois pour obtenir un rendez-vous chez un dermatologue. Et je pense que nous avons un rôle, par exemple, important pour dire oui, ça peut attendre les 6 à 9 mois de rendez-vous, ou bien non, il faut décrocher le téléphone et vous serez reçu rapidement. Autre situation dans laquelle je vois... C'est peut-être un petit peu plus original. Je vais vous parler là du rôle du médecin traitant et de l'homme malade vis-à-vis du travail. C'est une expérience que je fais fréquemment. Les patients jeunes atteints de maladie et qui doivent encore travailler, eh bien, nous sommes là, bien sûr, à leur côté. Je pense par exemple à ce monsieur plaquiste, donc qui a un métier physique et qui a été atteint d'une maladie qui l'a amené vers l'insuffisance rénale en quelques mois. Et il a donc fallu organiser, j'allais dire, sa vie quotidienne, pendant que du côté hospitalier se font tout le bilan pré-dialyse, puisqu'il est arrivé en quelques mois au stade de la dialyse. Il était pris en charge, bien sûr, de façon optimale au CHU. Mais que faire du quotidien? Et en particulier, que faire au niveau professionnel? Et là, j'ai dû, bien sûr, faire une demande de reconnaissance qualité travailleur handicapé. Cela met 6 mois, donc c'est pas immédiat, mais il faut le faire auprès de la MDPH. Il faut appeler ou écrire au médecin du travail pour envisager une adaptation de poste, une reprise à temps partiel thérapeutique après un arrêt de travail un petit peu prolongé. Il m'a même fallu appeler le syndic de son appartement, puisque, ayant choisi d'être dialysé à domicile par une dialyse péritonéale, il ne se voyait pas supporter le voisin bruyant au-dessus plus longtemps, et tellement il était donc fatigué par sa maladie. Voilà un exemple donc de relations où il n'y a pas de soins médicaux à proprement parler, mais il y a une situation d'accompagnement dans la dimension sociale et professionnelle du patient, bien sûr. Alors, il nous arrive parfois aussi, une fois... c'est pas le cas pour ce patient, mais parfois il faut demander aussi une reconversion professionnelle. Je vous ai dit que j'avais eu une activité salariée et c'est noté dans un centre de rééducation professionnelle. Ce sont des centres financés par la Sécurité sociale dans lesquels les patients devenus inaptes à l'exercice de leur profession peuvent bénéficier d'une reconversion. Et là aussi, il faut faire un dossier, il faut demander, et puis après, il faut accompagner vers un métier donc compatible avec le handicap. Voilà, donc l'homme dans sa dimension professionnelle. Et puis, il est une autre situation où, où c'est peut-être pas le soin et la guérison que l'on cherche, mais plutôt un accompagnement déjà. Hein. C'est le cas, par exemple, des patients qui ont des maladies neurodégénératives. Hein. Je pense à un patient qui a une sclérose en plaques, hein, 48 ans, qui ne répond plus à aucun traitement. Et autant les spécialistes et les services spécialisés prennent très bien en charge les patients, tant qu'ils répondent au traitement, ils sont bien canalisés, ils sont bien accompagnés, les spécialistes font ça très bien. Mais une fois que les traitements de différentes lignes sont en échec, eh bien, le médecin traitant, j'allais dire, reprend la main. Et avec une équipe d'infirmiers, de kinés, parfois l'orthophoniste, les auxiliaires de vie, l'ergothérapeute, eh bien, il faut organiser cette nouvelle vie du patient à domicile, jeune en l'occurrence. Et là, je dois saluer quand même les infirmières, hein, le travail des infirmières qui sont beaucoup plus présentes que nous, souvent plusieurs fois par jour, en l'occurrence, je pense à ce patient, et qui ont un rôle aussi d'alerte, puisqu'on ne peut pas être très, très souvent auprès de ces patients, mais elles savent nous interpeller quand il y a besoin que nous y allions pour réévaluer une situation, pour introduire un traitement antibiotique, pour appeler le spécialiste lorsqu'il y a une situation un petit peu d'urgence qui nécessite quand même une réaction, j'allais dire, un geste hospitalier. Alors, j'ai parlé des infirmières, j'ai parlé voilà, d'autres intervenants dans le soin vers lesquels s'orientent les patients. Je vais maintenant parler un petit peu de la spécificité aussi, d'une autre spécificité de notre profession, qui est celle d'avoir prêté serment et d'avoir un code de déontologie. Alors, ce fameux serment d'Hippocrate, voilà, a certainement précédé, enfin, a certainement inspiré, précédé, ça, vous le savez bien sûr, l'écriture du code de déontologie. Alors, ce fameux code de déontologie, je dois dire, je ne l'avais jamais ouvert avant de m'y intéresser pour cette conférence. Je me suis aperçue que c'est une bonne partie du code de santé publique, plus d'une centaine d'articles qui sont consacrés quand même à la spécification éthique de notre profession. Hein. Et parmi cette centaine d'articles, beaucoup gèrent bien sûr les relations avec les autorités, entre confrères, entre... Mais j'en ai retenu que deux qui sont très proches, mais qui m'ont ouvert voilà, un temps de réflexion. On peut lire ainsi l'article donc R412732 donc du code de santé publique, dans lequel est inclus ce code de déontologie. On lit: dès lors qu'il a accepté de répondre à une demande, le médecin s'engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s'il y a lieu, à l'aide de tiers compétents. Je trouvais que c'était un résumé tout à fait vrai et juste de notre exercice. Et l'article suivant rajoute une notion qui me paraît importante, puisqu'il dit le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, ce qui était déjà dans l'article précédent, en y consacrant le temps nécessaire et assédant, dans toute la mesure du possible, des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s'il y a lieu, des concours appropriés. Ce qui a retenu mon attention dans cet article, c'est en y consacrant le temps nécessaire. Voilà, parce que les médecins, comme les hommes du XXIe siècle, manquent de temps. Mais ne pas avoir le temps n'est pas une excuse pour ne pas le prendre. Surtout que nous n'avons pas affaire à des élèves, des administrés, des clients. Nous avons quand même affaire à des patients. Alors, je ne sais pas depuis quand ce terme est consacré par le langage commun, mais il signifie bien que l'irruption de la maladie dans la vie de l'homme modifie sa conception et son rapport au temps, voire que la maladie impose à l'homme son propre temps. Alors, attendre un rendez-vous chez le dermatologue ou l'ophtalmologue quelques mois, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une chose, mais attendre les résultats d'une biopsie qui doit donner le diagnostic final d'une maladie potentiellement très grave, c'en est une autre. Supporter de longs mois les effets secondaires de traitements lourds sans en entrevoir le moindre bénéfice, c'est long. Et le médecin généraliste, sauf à abandonner le patient sur le bord de chemin, doit aussi changer de rythme et adopter, on pourrait dire, la slow medicine. Comme il y a le fast-food, on pourrait adopter la slow medicine. Voilà. Je vais militer pour ça. Et ça vaut la peine parce que prendre du temps, ça ne veut pas dire seulement allonger la durée d'une consultation ou d'une visite, bien sûr dans une attitude d'écoute, d'attention, mais c'est aussi donner du temps aux malades et parfois à la famille pour réaliser, pour accepter la maladie et ses conséquences. Ainsi, je pense à l'épouse d'un patient qui a, du fait d'une maladie, fait de nombreux AVC, avec une perte d'autonomie progressive, mais évidente, des troubles cognitifs. Et cette épouse, bien sûr, gardait l'espoir toujours d'une récupération, d'une amélioration, d'une... Voilà. Et il a fallu, bien sûr, lui accorder le temps, lui donner du temps, en ne mentant pas d'abord sur la gravité de la situation, mais en distillant aussi des paroles d'encouragement. Il a fallu lui faire accepter que, eh bien, dans sa maison, il y aurait désormais 3 fois par jour l'infirmière, puis l'auxiliaire de vie, puis que passerait aussi le kiné, et puis l'orthophoniste, et qu'elle ne serait plus chez elle, finalement. Et donner du temps donc à cette épouse, ça a été bien sûr bénéfique pour elle, pour la prise en charge de son époux, et ça a été aussi bénéfique pour moi, parce que c'est aussi le temps où je peux réaliser encore que notre domaine d'action, à nous, médecins, est limité, et que nous heurtons sans arrêt à la finitude de notre humanité. nous sommes renvoyés à nos propres limites, limites des connaissances, mais aussi limites de notre patience, de notre empathie, de notre capacité à soutenir, à relancer, à... Voilà. Finalement, cette expérience en particulier auprès de cette épouse a fait que on se retrouve là. Nous parlions tout à l'heure de la dissymétrie de la relation, dans une relation tout à fait, pour le coup, égalitaire, face à cette finitude, hein. Et là, je pense qu'elle a quand même besoin, et que les patients, pas seulement elle, ont besoin d'une personne comme le médecin, une personne donc, dont on a dit qu'elle faisait des études, qu'elle avait prêté serment, et une personne qui a fréquenté la maladie et la mort, et qui donne et qui peut dire que au-delà de ce corps déchu, eh ben, il voit encore la dignité de l'humanité. Hein? Alors, la dignité, ça n'est pas, ben, ça n'est pas justement une vertu acquise par nos qualités, ça n'est pas acquis par des expériences extraordinaires. Cette dignité nous est donnée avec notre humanité. D'ailleurs, j'ai relevé que dans le code, pas dans le code, mais je ne parle pas toujours que du code de déontologie, mais là, il s'agit justement de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Hein, voilà. Et le premier article dit « Tous les êtres naissent libres et égaux en dignité et en droit. Hein, » voilà. Et le Conseil national d'éthique a remis ça dans sa version de 1991. La dignité de l'homme tient à son humanité, point, quel que soit le visage de cette humanité, qui est souvent bien défigurée par la maladie. Je voudrais maintenant peut-être conclure, si... juste en revenant à deux textes de l'Évangile. Voilà, texte, le premier, je voudrais vous citer, bien sûr, Matthieu au chapitre 25. Hein, c'est l'épisode où Jésus parle du jugement, séparer les brebis et les chèvres, et il dit... alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, venez les bénis de mon père, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais malade et vous m'avez visité. Et les autres de dire, quand nous est-il arrivé de te voir malade ou en prison et de venir à toi? Eh bien, je pense que mon regard de médecin chrétien, ma foi, me fait voir à travers ce patient malade, grave ou pas, effectivement, le Christ souffrant à ses côtés. Et c'est un texte un petit peu déterminant pour le choix de mes études, d'ailleurs. Hein? Dieu... Le Christ, voilà, comment le trouver? Eh bien, voilà, là, dans la personne souffrante, Dieu se fait proche, il est là, et quel que soit son état de faiblesse, de déchéance, de désespoir, quelle que soit sa foi, sa vie, quels que soient ses nombreux péchés ou quoi que ce soit, on ne nous dit rien de plus. Voilà, il était malade et il a été visité. Point. De même, je voulais vous citer aussi le chapitre de Luc, donc qui est la parabole du bon samaritain. Hein. Bien sûr, je me suis aperçue que dans ce texte, il y a par deux fois, il prit soin, prendre soin. Alors c'est l'homme donc qui descend de Jérusalem à Jéricho est roué de coups, le prêtre passe à bonne distance, le lévite passe à bonne distance, et le samaritain s'approche de ce voyageur laissé pour mort. Il prit soin de lui. Le lendemain, il l'amène à l'aubergiste et il dit à l'aubergiste, prends soin de lui. Voilà. Et finalement, Jésus répond à la question, qui est mon prochain? C'est celui qui a fait preuve de bonté envers lui. Va et toi aussi fais de même. Faire preuve de bonté envers qui? Envers cet homme roué de coups. Et on a appris en Matthieu 25 que cet homme roué de coups, eh ben, le Christ est là. Voilà. Hein? Donc se faire proche du malade, c'est se faire proche du Christ lui-même. C'est le servir, à mon avis, du mieux possible. Et puis peut-être par ce service, pouvoir l'entendre dire un jour, je ne vous appelle plus serviteur, mais ami. Merci.